France Inter.
Et voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Ces associations qui traquent les pédophiles en ligne. Pas de règlement de compte ici, pas d'appel à la violence, mais des pièges tendus pour les traduire en justice. 300 cas ces dernières années, exemple dans les Landes dans un instant. Les maltraitances commises sur les enfants qui laissent des traces sur plusieurs générations, nous dit une étude finlandaise que nous détaillerons. À suivre encore, une mère et son fils insultés hier soir au Parc des Princes. Véronique et Adrien Rabiot, le joueur de l'Olympique de Marseille, elles déposent plainte, information française. Inter. Deux ONG de défense de l'environnement et de consommateurs qui attaquent en justice le groupe Carrefour. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
On parle de thon.
Oui, Bloom et Foodwatch portent leurs critiques en justice. Les deux ONG accusent Carrefour de s'approvisionner en thon contaminé au mercure, de détruire la biodiversité marine et de porter atteinte aux droits humains sur les bateaux de pêche. Le groupe dément.
A tout de suite, le Premier ministre canadien qui réserve sa première visite à l'étranger à la France. Nous l'écouterons. Et à 13h50, dans notre C'est la France, les mots québécois dans le français de nos régions. Ce sera avec notre linguiste Mathieu Avanzi, alors que les Canadiens veulent se rapprocher des Européens. Nous parlerons aussi des 5 ans du confinement et nous irons respirer dans les marais salants du Croisic. 500 hectares de réserves viennent de rouvrir au public. À partir de 13h30, Brice Teinturier, le directeur général d'Ipsos, avec nous. Les priorités des Français sont-elles bouleversées par la crise avec les États-Unis? La vie politique est-elle aussi chamboulée? Emmanuel Macron a-t-il regagné du crédit? 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h45, notre feuilleton dans les coulisses de la filière fleurs. D'où viennent-elles? Comment sont-elles produites?
Renoncule, anémone, là on va bientôt arriver dans la saison des pivoines. Ça peut arriver qu'on vende jusqu'à 1 million de tiges. Ça fait des sacrés volumes.
Nous commençons dans le Var. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Raoul Passe, Cassav et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
L'an dernier, plus de 160 000 signalements de contenus pédocriminels échangés en ligne ont été effectués en France. Ça représente 450 échanges suspects par jour, transmis par les plateformes sur lesquelles ils ont lieu aux services de police spécialisés. Ce chiffre a été multiplié par 120 en 10 ans. Mais il n'y a pas que les plateformes ou les policiers qui piègent les pédocriminels. Des associations s'en sont fait également une spécialité. Ainsi, à Dax, dans les Landes, un homme de 60 ans sera jugé le mois prochain. Il a été confondu fin 2023 par de faux comptes Facebook de petites filles. Explication Paul Ferrier.
Un Dacois de 67 ans, déjà condamné pour agression sexuelle sur mineur. Il est convoqué devant le tribunal de Dax, pour entre autres corruption de mineurs, sollicitation d'images pédopornographiques, détention d'images pédopornographiques. Et dans ce dossier, il n'y a donc pas de vrais enfants victimes. En tout cas, pas devant le tribunal, mais deux associations qui, si on résume simplement, chassent les pédophiles sur les réseaux sociaux, les pièges, grâce à de faux profils d'enfants. Alors c'est une méthode un peu limite d'un point de vue du droit, mais ces associations savent faire pour rester dans les clous. L'important, c'est de ne pas créer l'infraction. Ces associations créent donc de faux profils, avec des photos d'enfants créées par intelligence artificielle, et attendent que les pédophiles les contactent. Ils ne vont pas vers eux. Ils refusent aussi leur avance. Par exemple, le Dacois en question a proposé au faux profil d'enfant d'envoyer une photo de son sexe. Le faux profil d'enfant a répondu non, mais l'homme l'a fait quand même. Cet homme qui est entré en contact avec 12 faux profils créés par ces associations.
Alors, ces deux associations affirment avoir traduit en justice plus de 300 pédophiles, mais quelles limites se fixent-elles dans leur action? Le fondateur de l'une d'elles, l'association Team Eunomy, s'en explique, il tient à garder l'anonymat.
On nous appelle les chasseurs de pédos, les piégeurs, oui, on nous a déjà dit qu'on piégeait des gens. On piège personne, nous, on va pas dire à la personne, on va rien laisser entendre qui va pouvoir faire aller la discussion dans ce sens-là, en fait. Au contraire, on est toujours dans le refus de ce qu'ils nous proposent, même ne serait-ce que d'envoyer une photo de notre visage. On dit non, mais t'es fou, moi j'ai pas le droit, mes parents veulent pas. On serait plutôt des pêcheurs. On tend un hameçon, hein, clairement, il y a un hameçon qui est là, et puis on voit si ça bouge ou pas. Si ça bouge pas, tant mieux. Si ça bouge, bah voilà, on fait ce qu'il faut derrière.
Explication et interview signée ici Gascogne. Toujours dans le sud-ouest, le rectorat de Bordeaux débute aujourd'hui l'inspection de l'établissement Notre-Dame de Bétarame, visé par des dizaines de témoignages d'agressions sexuelles et de violences ces dernières décennies. Il y a eu très peu de contrôle dans ces établissements privés sous contrat, indique ce matin la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui annonce un renforcement avec 60 inspecteurs professeurs de plus dans les deux prochaines années. 17% des élèves français sont scolarisés dans ces établissements. Alors ces actes de maltraitance sur les enfants laissent bien sûr des traces chez eux quand ils grandissent et deviennent adultes. Les victimes en témoignent régulièrement. Mais ces traumatismes peuvent aussi modifier leurs gènes, voire être transmis à leur descendance. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Jérôme.
Une étude finlandaise vient apporter de nouveaux éléments dans ce sens.
Oui, ce que ces chercheurs ont découvert, c'est qu'il y aurait sans doute des marques épigénétiques qui sont le reflet du vécu d'une personne. Prenons le temps de bien comprendre. Il y a d'abord le génome, c'est le disque dur de notre organisme. Et les logiciels qu'on va glisser à l'intérieur, c'est l'épigénome. Ils peuvent modifier en partie certains gènes et ces mécanismes peuvent intervenir au plus tôt de la vie. Ainsi, les spermatozoïdes portent probablement en eux ces marques, ces modifications, explique Isabelle Mansuy, professeure en neuroépigénétique à l'université de Zurich en Suisse.
Un petit garçon qui n'a pas encore de spermatozoïdes, il a des cellules souches qui vont générer les spermatozoïdes. Et les cellules souches elles-mêmes, si elles sont exposées à une mauvaise alimentation, à un traumatisme chronique, va subir des modifications dans leur épigénome. Et certaines de ces modifications peuvent persister tout au long de la vie et être encore présentes dans les cellules de spermatozoïdes.
Il y a donc de nouveaux faisceaux d'indices qui peuvent laisser penser que ces modifications épigénétiques sont dues à un violent changement, le traumatisme pour les enfants victimes de violences sexuelles par exemple. Mais ce qu'il faut bien comprendre, Jérôme, c'est que nous avons ici une corrélation, pas une causalité. On fait une association entre des choses qu'on observe et les mécanismes produits par la suite. C'est donc une hypothèse qui prend de l'épaisseur, mais ces recherches devront être poursuivies pour dire avec certitude que les gènes peuvent être modifiés par certains traumatismes de l'enfance.
Merci Victor Dolande pour ces explications. Autre objet d'étude depuis 5 ans, car on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ses conséquences sur l'organisme, le Covid. Il y a 5 ans, jour pour jour, le 17 mars 2020, à midi, précise, débutait le premier confinement. Première ville touchée en France, Mulhouse, en Alsace, en raison de ce rassemblement évangélique tenu fin février 2020, qui s'était transformé, on s'en souvient, en lieu de contamination géant. Là-bas, les écoles avaient fermé une semaine avant le reste du pays. Le docteur Patrick Vogue, médecin généraliste à Mulhouse, se souvient qu'au départ, beaucoup doutaient de sa dangerosité.
Rapidement, les gens disaient « Oui, vous inquiétez pas, c'est une simple grippette. » quoi. Ça n'a pas été une grippette du tout, qu'on a vu les premiers morts très rapidement arriver et le nombre de gens qui ont été admis en réanimation dès les premières semaines. Quoi. On s'est battu au corps à corps avec ce virus, on essaie de faire le maximum. Certains y ont laissé des plumes, d'autres moins. Moi, heureusement, j'ai réussi à passer à travers les gouttes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai deux amis qui sont morts à cette période, un gynéco, un médecin généraliste. Ça a été un choc terrible de savoir qu'on pouvait mourir de la maladie qu'on était censé soigner. Quoi. Ça a été difficile. Des mois, 2-3 mois difficiles. Et puis le confinement a été un moment d'isolement terrible. Hein. Mulhouse était une ville morte, on n'entendait pas un bruit.
Patrick Vogue au micro d'ici Alsace. Isolement, dit-il, particulièrement ressenti par les plus jeunes. Alors quels souvenirs en garde-t-il ? Raphaël Ben Abdelmoumen, vous êtes allé à la rencontre ce matin d'étudiants à Paris. Ils étaient lycéens à l'époque.
Théa a mis près de 3 ans à réussir à sortir de nouveau et voir des amis après le confinement. Alors c'est une période de sa vie qui a laissé des traces.
C'est comme si on avait fait une pause, mais que le temps a continué et du coup, on a grandi sans avoir fait des expériences, j'ai envie de dire. Parce que là, j'ai 23 ans, j'ai l'impression d'en avoir toujours 18. Pas parce que je me sens jeune ou quoi, juste parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma vie.
Le sentiment d'avoir perdu une ou deux années de jeunesse et aussi des habitudes qui restent.
Avant que je sortais, du coup, j'étais pas du tout sur mon téléphone. À partir du confinement, jusqu'à maintenant, en fait, j'ai genre vraiment 4 à 5 heures sur mon téléphone, juste à scroller sur Insta. Même avec une très bonne volonté, c'est difficile parce que du coup, c'est devenu un réflexe du quotidien, je veux dire.
Alors aujourd'hui, elle tente de moins regarder son écran de téléphone. C'est aussi ce qu'essaye de faire Lina, 20 ans. L'étudiante a gardé une certaine routine des années Covid.
Depuis le confinement, j'ai l'impression que je sors moins. C'est bizarre, hein, parce que j'avais vraiment pris une habitude de rester à la maison, avoir mes petites habitudes à la maison. Je suis devenue totalement casanière.
Et puis, il y a aussi des projets de vie qui changent, mais chez tous une même volonté, profiter davantage de la vie et prendre du temps pour soi.
Reportage Raphaël Ben Abdelmoumen. C'est un témoignage France Inter. Le joueur de l'Olympique de Marseille, Adrien Rabiot, et sa mère, Véronique, ont été la cible hier soir au Parc des Princes de supporters du Paris Saint-Germain lors du match PSG-OM remporté 3-1 par les Parisiens. Banderoles et chants insultants. Je rappelle qu'avant d'évoluer à l'OM, Adrien Rabiot a porté les couleurs du PSG. Bonjour Julien Froment.
Bonjour.
Clément. C'est vous qui avez recueilli pour Inter ce matin le témoignage de Véronique Rabiot. Elle a décidé de porter plainte.
Oui, la maman de l'international français qui gère aussi ses intérêts sportifs a été choquée par ce qu'elle a vu et entendu hier soir au Parc des Princes. Elle n'était pas présente au stade pour des raisons de sécurité, mais on lui a rapporté en détail ses chants entonnés à de multiples reprises, ses trois banderoles où il est notamment question du père d'Adrien Rabiot et de son mari décédé d'une maladie en 2019. C'en est trop pour Véronique Rabiot, très rare dans les médias et qui nous a confié son mal-être. Vous allez l'entendre, elle reprend dans sa voix les mots très durs prononcés et écrits à son encontre en tribune.
Ah mais je suis plus que choquée, monsieur, je suis vraiment indignée vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse. Voilà, mais sûrement que Adrien et moi sommes pas assez puissants pour que ça intéresse qui que ce soit. Les féministes qui sont toujours en train de... Elles se lèvent pour dire comment ça se fait qu'on la traite de salope. Comment ça se fait qu'on la traite de pute? Voilà. La ministre des Sports, elle est où la ministre des Sports? On l'entend pas là, pourquoi on l'entend pas?
Alors la suite, hein, c'est une possible sanction contre le Paris Saint-Germain, amende et fermeture partielle ou totale du virage Auteuil. Pour cela, il faudra que la commission de discipline se saisisse de ce dossier. Contacter le club de la capitale n'a pour le moment pas réagi, mais ces derniers jours, il a multiplié les appels au calme et des stadiers sont intervenus assez rapidement pour enlever certaines banderoles hier soir.
Mais pas assez pour empêcher cette banderole de rentrer dans le stade, manifestement. Merci Julien Froment pour ce témoignage exclusif. Je précise que des chants homophobes ont également été entonnés hier soir au Parc des Princes. Cet accident ce matin sur la commune de Bailleul-Sir-Bertoux, nous sommes près d'Arras. Un véhicule de l'armée a percuté à un passage à niveau, pour une raison encore inconnue, un TER et deux militaires sont morts dans cet accident. Un troisième est blessé. Il est dans un état grave, information de nos confrères d'ici Nord. Un chiffre pour mesurer le désarroi des Canadiens dont Donald Trump répète depuis des jours que leur pays pourrait devenir un État américain. 44% des Canadiens, selon un sondage publié la semaine dernière, seraient favorables à l'idée de rejoindre l'Union européenne. Bien sûr, l'adhésion est réservée aux États européens, mais voilà qui en dit long sur leur sentiment d'isolement, si bien que leur nouveau Premier ministre, Mark Carney, cherche des soutiens pour contrer la guerre commerciale lancée par Trump. Il a donc réservé son premier déplacement à Londres et à Paris aujourd'hui. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour Jérôme.
Rencontre à l'Élysée ce matin avec le président français, que peut lui apporter la France ?
Un soutien ferme dans la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump contre son voisin canadien, sujet primordial pour le Premier ministre Mark Carney. C'était il y a quelques minutes à l'Élysée dans un français hésitant.
Nous savons que c'est la collaboration économique, pas les affrontements, qui nous permet de bâtir des économies fortes. C'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables comme la France.
Allié fiable, allusion transparente à l'imprévisible Donald Trump. Le président américain n'est jamais cité, mais Emmanuel Macron, lui aussi, se félicite de trouver un allié, le Canada, face à l'escalade commerciale des États-Unis.
Je crois que l'un et l'autre, nous croyons en effet que le commerce équitable qui respecte les règles internationales est une bonne chose pour la prospérité de tous. Et il est à coup sûr plus efficace que les tarifs qui... Crée de l'inflation.
Les menaces d'annexion du Canada par Washington ne sont pas évoquées, mais le président français fixe un objectif commun, là encore, en allusion à Donald Trump.
Défendre ensemble, au fond, un ordre international juste. C'est-à-dire quelque chose qui ne soit ni la loi du plus fort, ni l'isolationnisme.
Et dans cette optique, le Canada réfléchit même à annuler ses futurs achats d'avions de chasse de fabrication américaine, les F-35, pourquoi pas des Rafales, made in France, la défense est aussi au menu du déjeuner de travail en ce moment à l'Élysée.
Avec Mark Carney, c'est comme ça que l'on prononce. Merci Frédéric Saïs. Le contexte international qui pèse aussi sur la vie politique française et ses débats. La question des retraites, par exemple. Débat totalement dépassé, a asséné hier en meeting à Lille l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Sans lui donner raison, le Premier ministre actuel, François Bayrou, lui a estimé qu'il ne pourrait pas y avoir de retour à 62 ans à l'issue de la concertation en cours entre syndicats et patronat. Rappelons que cette concertation avec débat sur l'âge de départ, c'était une condition obtenue par le Parti Socialiste pour ne pas voter la censure. Alors, puisque François Bayrou ferme la porte, bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
Les socialistes pourraient-ils être tentés de le renverser ?
Tenter oui, mais de là à appuyer maintenant sur le bouton, c'est prématuré. Voilà en somme ce que répondent ce matin les députés socialistes. D'un côté, ils se montrent particulièrement courroucés par les déclarations de François Bayrou hier sur notre antenne, qualifiées au choix de trahison, d'incompréhensible ou de méprisante selon le cadre du PS que vous interrogez. Mais de là à renverser le gouvernement à nouveau 3 mois et demi après Michel Barnier, le patron des députés socialistes Boris Vallaud n'en est pas encore là.
À ce stade, je dis au Premier ministre, respectez le dialogue social, respectez ensuite le débat parlementaire, respectez la volonté des Françaises et des Français.
Pas au point de menacer de censurer, donc.
Écoutez, les questions se poseront en effet le moment venu, mais je le dis, il y a des partenaires sociaux qui ont accepté le principe de remettre ce sujet en chantier, et toute interférence qui viendrait fragiliser cet exercice, qui viendrait fragiliser la démocratie sociale et le débat entre les partenaires sociaux, eh bien, serait reprochable.
Prudence extrême, donc, vous l'entendez, de Boris Vallaud, on est dans une zone grise, décrypte un stratège du groupe PS. L'arme de la censure est toujours sur la table, mais on préfère attendre à la fin du conclave sur les retraites pour décider la marche à suivre. Fin de citation. 2 mois de sursis, donc, pour François Bayrou. Mais attention à ne pas trop jouer avec le feu, avec le PS, en laissant entendre qu'il enterrait un retour à 62 ans pour partir à la retraite. François Bayrou a peut-être planté lui-même hier un nouveau clou dans son propre cercueil. On verra au printemps, donc, en cas d'échec des négociations entre partenaires sociaux, si les socialistes juste avant leur propre congrès, osent à nouveau passer des paroles aux actes.
Décryptage signé Julien Nenny. Les diplomates belges sont priés de quitter le Rwanda. Le pays d'Afrique l'annonce ce matin. Rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusée d'avoir pris parti pour la République démocratique du Congo dans le conflit qui oppose les deux pays. Bruxelles avait notamment demandé à l'Union européenne d'envisager des sanctions contre le Rwanda, accusé d'avoir envahi la RDC en soutenant les rebelles du M23. La Belgique ancienne puissance coloniale du Rwanda, mais aussi de la République démocratique du Congo. C'est l'un des personnages clés de la sécurité d'Israël, le chef des services de sécurité intérieure, le Shin Bet. Eh bien, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé hier son intention de le renvoyer en faisant explicitement référence à une responsabilité dans les attentats terroristes commis par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Ronen Bar, c'est son nom, dément cette version.
Benjamin Netanyahou a eu la peau de son ministre de la Défense, Yoav Gallant, puis celle du chef d'état-major, Herzi Halevi, et c'est désormais au tour de Ronen Bar.
Depuis longtemps, je ne fais plus confiance au chef du Shin Bet. Cette décision est nécessaire pour éviter une nouvelle catastrophe.
Derrière cette décision qui couvait depuis un certain temps, il y a les conclusions du rapport interne du Shin Bet sur les failles du 7 octobre, et elles pointent clairement la responsabilité de Benjamin Netanyahou dans le financement du Hamas par le Qatar depuis 2018, mais l'élément déclencheur, c'est cette nouvelle enquête sur des proches collaborateurs du Premier ministre accusés d'avoir récemment perçu de l'argent de Doha pour favoriser l'image de l'émirat. Claude Klein est professeur de droit constitutionnel à l'Université de Jérusalem.
La question simplement est de savoir s'il n'y a pas un conflit d'intérêts qui pourrait provoquer une véritable crise constitutionnelle. Pour Netanyahou, l'une des choses qui lui importe, c'est de rester au pouvoir. Il est prêt à tout pour rester au pouvoir.
Le cabinet du Premier ministre doit voter cette semaine pour le limogeage du chef du Shin Bet. Il y aura ensuite des recours devant la Cour suprême pour lancer une bataille juridique qui ne fait que commencer.
Thibault Lefebvre à Jérusalem pour Inter, l'armée israélienne qui ce matin dit avoir mené des frappes aériennes sur plusieurs combattants palestiniens à Gaza, alors que les deux parties, Hamas et Israël, sont censées respecter un cessez-le-feu. Les négociations pour le prolonger ont d'ailleurs lieu en ce moment en Égypte. L'Allemagne, elle rajoute de l'argent pour la Syrie, une aide supplémentaire de 300 millions d'euros, alors que se tient aujourd'hui à Bruxelles une conférence des donateurs autour de la reconstruction. Reconstruction d'un pays où la guerre continue de tuer. Depuis le début de l'année, plus d'une centaine de personnes sont mortes en marchant sur des mines abandonnées par le régime de Bachar al-Assad. Ainsi, près de la frontière irakienne, entourée des dernières poches de l'État islamique, c'est la région de Deir ez-Zor qui est la plus infestée. Notre reporter Arthur Saradin a pu se rendre sur place.
Ce berger est allongé sur un lit, recouvert d'épaisses couvertures. Ahmed était le passager d'une voiture qui a roulé sur une mine anti-char.
On voulait juste voir s'il y avait de quoi nourrir nos moutons ailleurs. Puis j'ai été projeté à terre et ensuite je me suis réveillé à l'hôpital. J'ai des fragments de métal dans le ventre et ma jambe droite est cassée.
Dans l'explosion, deux cousins d'Ahmed ont été tués. Depuis l'accident, c'est donc son père, Abdel Salam, qui est chargé d'emmener le troupeau dans le désert.
Désormais, nous avons peur pour nos jeunes qui travaillent, pour nos bêtes, nos voitures et même pour nos enfants quand ils sortent jouer.
Ce désert est infesté d'engins explosifs laissés par le régime Assad, ses alliés iraniens et russes, mais aussi par les combattants de l'État islamique. En 2023, la Syrie était déjà le pays qui enregistrait le plus de victimes des mines devant l'Afghanistan et l'Ukraine.
Vous voyez là, il y en a trois.
Hassan est membre des casques blancs. Il est en train de barricader un immeuble du centre-ville.
Il nous faudra des dizaines d'années pour nous en débarrasser. C'est sans compter les autres engins explosifs qui sont partout dans la ville.
Pour le moment, faute de matériel, les casques blancs de Deresor ne peuvent détruire que des engins non explosés. Les ONG internationales sont les dernières capables d'envoyer sur le terrain syrien des démineurs expérimentés. Les habitants de la ville, eux, vivent encore seuls, entourés par les mines.
Reportage en Syrie, Arthur Saradin.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est une loi votée en 2017, le devoir de vigilance, qui vaut aujourd'hui au groupe Carrefour une assignation en justice. Les associations Bloom, qui militent pour la protection des océans, et Foodwatch, qui militent pour la qualité des aliments vendus aux consommateurs, ces deux associations assignent donc le groupe de grande distribution devant le tribunal judiciaire de Paris en cause son approvisionnement en thon. Rémi Brancato, vous allez tout nous expliquer. Pour ces deux ONG, Carrefour met à mal la biodiversité, vend du thon qui serait selon elle contaminé au mercure, mettrait aussi en danger la santé des pêcheurs sur les bateaux. De son côté, le groupe se dit prêt à se défendre.
Oui, et cela fait bientôt 2 ans que Bloom puis Foodwatch ont mis en demeure à 2 reprises le groupe concernant cette filière thon meurtrière pour les pêcheurs, disent-elles, et qui contrevient, selon Pauline Bricot, chargée de campagne chez Bloom, au devoir de vigilance auquel est soumise l'entreprise.
Carrefour emploie des méthodes de pêche destructrices et l'enseigne s'obstine à vouloir autoriser ces méthodes dans ses approvisionnements. La deuxième chose, c'est que la filière thonnière est particulièrement dangereuse pour les travailleurs. La troisième chose, c'est que nous avons révélé la contamination généralisée du thon au mercure, et notamment dans des conserves de thon que nous avons retrouvées à marque Carrefour.
L'ONG dénonce une hypocrisie de la multinationale qui a pris des engagements, certes, mais flous, ce que dément Karine Kraus, la directrice de l'engagement de Carrefour, sereine face à cette procédure en justice.
Elle ne nous inquiète pas plus que les mises en demeure. On a arrêté tout approvisionnement en thon albacore qui soit pêché dans l'océan Indien. Sur le sujet, en effet, des respects des droits humains, on a un observateur sur tout bateau de pêche qui approvisionne Carrefour. Et sur le mercure, on fait des analyses régulières, 500 analyses ces derniers mois, et on a 100% de conformité. Donc on est en désaccord absolu avec les accusations qui sont portées par Bloom.
Elle dénonce une stratégie déguisée de Bloom pour réduire à néant la consommation de thon. L'ONG plaide en tout cas pour la réduire. Chaque Français mange en moyenne chaque année 3 à 5 kilos de ce poisson.
Rémi Brancato, les hommages se succèdent depuis hier soir en Belgique et en France après l'annonce de la disparition d'Émilie Dequesne. La comédienne belge avait seulement 43 ans. Elle souffrait d'un cancer de la glande surrénale. Et évidemment, parmi les premières réactions, celle de Luc Dardenne. Le cinéaste avait découvert Émilie Dequesne avec son frère Jean-Pierre lors du casting de leur film Rosetta en 1999, qui valut à Émilie Dequesne le prix d'interprétation féminin à Cannes. Alexis Demeyer a pu joindre Luc Dardenne ce matin.
Bon, chienne de vie, maladie, c'est terrible. Elle avait tellement de choses à faire encore. Elle était géniale et grande actrice. Et voilà, c'est fini. Il reste les films, heureusement, si je puis dire, mais maigre consolation quand même. Pour nous, c'était vraiment une révélation, Émilie. Quand on l'a rencontrée pour la première fois pour le casting, elle était venue habillée comme si elle venait se présenter pour obtenir un poste de travail important. On lui a demandé d'enlever ses escarpins, son maquillage, et tout de suite. Mais vraiment tout de suite, on a vu qu'il y avait une grande actrice possible. On a un peu poussé le casting, on l'a fait revenir et on a fait une scène où elle est employée dans la petite boulangerie que tient Olivier Gourmet et on lui a dit voilà, tu vas t'accrocher à la table, on va essayer de te tenir, de t'arracher à cette table. On a commencé à filmer et impossible de la détacher de cette table. Et on s'est dit, elle tient. C'était une manière aussi de penser pour nous qu'elle tenait à son rôle, évidemment, qu'elle voulait pas lâcher. Et elle a été magnifique dans le jeu, vraiment. Et on lui a dit voilà, c'est toi, tu seras Rosetta.
Le cinéaste belge Luc Dardenne au téléphone d'Alexis Demeyer. Si vous ne l'avez pas écouté ce matin sur Inter, je vous recommande l'une des dernières interviews d'Émilie Dequesne accordée il y a un peu moins d'un an par l'actrice belge à Léa Salamé. Vous retrouverez cette interview sur franceinter.fr. Le retour d'Astérix, 41e album du héros gaulois Astérix en Lusitanie pour la première fois au Portugal. L'éditeur l'a annoncé ce ce matin. Ce sera le deuxième Astérix pour le scénariste Fab Caro et le septième pour le dessinateur Didier Conrad. Je voulais qu'on poursuive en s'intéressant à deux jeunes passionnés et passionnants. Nous serons dans un instant avec une boulangère récompensée pour la qualité de ses sandwichs en Ile-de-France. C'est Béatrice Duguay qui va nous la présenter. D'abord allons en Loire-Atlantique, au Croisic, avec un jeune homme qui veille sur les traits du Croisic, ses bras de mer entre marais salants et océans. 500 hectares de réserves ont rouvert ce week-end pour la première fois au public. Vous pouvez découvrir les 25 000 oiseaux qui viennent s'y protéger. Ce jeune homme est agent à temps plein, employé par la fédération de chasse qui gère cette réserve. Il s'appelle Rémi Morin, il a 23 ans et Hélène Roussel a pu le suivre sur le terrain.
Entre le Croisic et la Turballe, paysage de carte postale.
Avec des prés salés, la dune et beaucoup d'espèces d'oiseaux qu'on peut voir. Donc en effet, c'est un peu paradisiaque comme cadre.
Rémi Morin a 23 ans, un premier boulot passion.
Je vois aucun oiseau, mais vous me dites qu'il y en a plein ?
Ah oui, il y en a plein en fait sur les vasières. Juste devant nous, on en a peut-être un millier même. Et c'est vrai que si on les cherche pas vraiment avec une longue vue ou une paire de jumelles au minimum, bah, en fait on passe souvent à côté sans s'en rendre compte. Avec un petit peu de chance, on va pouvoir avoir le gorge bleu à miroir. Un petit passereau en fait, je vais voir.
Qui vient ici pour se reproduire avant de repartir vers le pays chaud après l'été. Et c'est en partie pour ce petit oiseau que deux zones restent interdites d'accès.
Ça y est, je le vois, il est là-bas.
Le mâle, comme ça, on l'observe souvent en fait, qui se perche un petit peu en hauteur.
Je vois un truc derrière, un gros truc derrière qui se balade.
Ah, c'est ça, c'est le courlis cendré, c'est le plus grand limicole d'Europe.
Pas de pancarte, pas de clôture, pas d'amende non plus, ça ne saurait tarder. En attendant, Rémi Morin court un peu partout, après les uns, après les autres, pour rappeler la réglementation.
Pour le moment, en fait, on a surtout beaucoup communiqué. Mais globalement, on a quand même pu voir que certains secteurs, notamment celui qui est devant nous, là, la grande vasière au niveau de Pimbron, on voit quand même que les oiseaux utilisent beaucoup plus le site.
Donc les oiseaux ont repris un peu possession des lieux. Un espoir pour les années à venir que d'autres espèces trouvent à leur tour refuge dans ce petit coin de paradis.
Ici Loire-Océan pour ce reportage signé Hélène Roussel. Elle est boulangère à la Renaissance, c'est le nom de cette boulangerie à Châtillon en Ile-de-France. Et elle a décroché le prix du meilleur sandwich du Grand Paris. Elle avait terminé troisième l'an dernier. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
C'est vous qui êtes allée à la rencontre ce matin de Suzanne Lopez. Elle a 22 ans, elle est passionnée de sandwich.
Oui, une pancarte dehors, un diplôme de vainqueur exposé dans la boutique et Sophie Lopez, la maman de la créatrice, pour montrer fièrement ce qui fait le succès de la boulangerie.
Ce pourquoi on a gagné le concours, le jambon fromage noix de cajou, le hareng œuf mimosa sauce tomate et pimenté et on est en train de faire le dernier qui est avec du camembert.
Trois imposés dans le concours effectivement qui partent comme des petits pains.
Ils sont très bons, hein. Je ne vais pas dire le contraire.
Voilà, c'est les clients qui font la queue dans la rue à l'heure du déjeuner dans ce quartier de bureaux à Châtillon. Suzanne, elle passe la matinée à produire ses sandwichs avec une dizaine de collaborateurs. La cuisine française de tradition l'inspire, dit-elle, avec une touche de créativité, évidemment, comme pour son jambon beurre.
J'ai fait un jambon fromage beurre au beurre de noix de cajou parce que les Français adorent les noix de cajou à l'apéro. En gros, mon idée, c'était de rajouter ce que les Français adorent, mais ce qu'il y a de simple. Mais le jambon, c'est un jambon qui est grillé à l'os.
Bah oui, quand même. Beurre émulsionné aux échalotes, miel, thym, ciboulette, plus de la petite salade japonaise pour le sandwich au camembert. C'est presque tout un repas dans un sandwich.
C'est pas juste que je mange un sandwich sur le pouce parce que j'ai le temps. C'est de retrouver les traditions françaises qui se perdent malheureusement. Et en plus de ça, bah, de se régaler.
Voilà, bien sûr, qui dit bon sandwich dit bon pain.
Ah oui, c'est la base.
Faut que la baguette soit croustillante.
Voilà, couleur caramel sur le dessus, intérieur alvéolé. Allez, le supplice commence pour vous, Jérôme. Vous devez patienter encore une petite demi-heure avant d'aller manger.
À commencer une petite demi-heure, c'est une grosse demi-heure.
Une grosse,
hein, c'est 32
demi-heure.
Minutes.
Voilà.
Merci Béatrice Duguay. Elle s'appelle Suzanne Lopez. Alors ça, c'est le meilleur sandwich d'Île-de-France. On fait pas de jaloux, on fera les comptes. Ce sera au mois de mai. Voilà, la finale nationale devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et on vous dira quelle région fait donc le meilleur sandwich de France. 13h28 sur Inter. En attendant de passer à table, la prochaine demi-heure de ce 13-14, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, la situation provoquée par l'élection de Trump change-t-elle vos priorités ? La crise internationale est-elle devenue pour vous Le sujet numéro 1, c'est-à-dire modifier votre perception de l'action, par exemple, du président de la République ou d'autres hommes et femmes politiques, venez nous le dire. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. Brice Teinturier de l'Institut de sondage Ipsos est avec nous. 13h45, notre feuilleton, comment sont distribuées les fleurs en France et d'où viennent-elles des fleurs françaises de moins en moins nombreuses. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Mathieu Avanzi et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Mathieu, les Canadiens visés par Trump se souviennent des liens qu'ils ont avec nous et notamment via des expressions de leur langue.
À cette heure, on chicane, on part la porte puisqu'on vient juste de finir de dîner. Vous allez dîner plus tard. Le Québec nous renvoie l'écho d'un Français qu'on croyait lointain et qui pourtant vient bien de chez nous.
Eh oui, au Québec, on dîne à l'heure du déjeuner, mais Mathieu Avanzi va vous expliquer tout cela. Et avec vous, Frédéric, un chanteur.
Le Cubain Raúl Paz, qui vient de faire paraître son 11e album et qui sera demain en concert au New Morning à Paris. Et avec lui, Jérôme, nous allons zouker sur un tube du groupe Kassav, que Raúl Paz considère comme l'un des plus grands groupes français de tous les temps.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Chantal Latsou, chef de la brigade d'intervention Akena, que se passe-t-il, monsieur ?
Je voulais m'équiper d'une pergola et on m'a clairement dit de m'adresser à vous parce que...
Hop, j'ai compris, vous avez bien fait de m'appeler aujourd'hui parce qu'après ça aurait été trop tard. Les vérandas, les pergolas, les carports, c'est maintenant sur Akena.com.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas ? Ah,
oui ! Prenez un aller simple chez votre concessionnaire Mini et faites le trajet retour au volant de la Mini électrique édition Camden. Maintenant disponible d'occasion dès 190€ par mois sans apport. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Montant total dû avec option d'achat final 18 788,70€. Exemple d'offre LO à 36 mois pour une Mini électrique édition Camden d'occasion, réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 juin 2025 dans la limite des stocks disponibles. Détails sur mini.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
France Inter, partenaire du Festival International Sérimania du 21 au 28 mars à Lille. Venez découvrir en avant-première et sur grand écran plus de 50 séries, dont Carême avec Benjamin Voisin et Lina Koudry et Astérix et Obélix, le combat des chefs, nouvelle série animée en présence d'Alain Chabat. Karine Viard, Lola Lafont, Thomas Joly, Amanda Seyfried, Kian Kojandi, ils seront tous présents. Soirée, exposition, masterclass à Lille et en ligne, vivez le festival où que vous soyez. Sérimania, un festival France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une belle journée.
Oui, beaucoup de soleil dans un ciel tout bleu ou presque. Alors on trouve quand même un petit voile nuageux sur les Pyrénées. Des Hauts-de-France au nord de l'Alsace, des passages nuageux circulent. Même chose de la Bretagne et de la Vendée vers le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Sur la Corse, là c'est quand même bien plus nuageux, hein, avec des averses cet après-midi. On n'oublie pas le vent, un vent de nord-est sensible sur les régions du nord. Un peu de mistral en vallée du Rhône. Les températures remontent, elles se rapprochent des températures de saison. Comptez 9 à 12 degrés au nord, 12 à 16 au sud, jusqu'à 17 degrés pour la Corse. Demain, on aura dégelé le matin, mais on repassera au-dessus des moyennes de saison pour l'après-midi avec beaucoup de soleil, mais des nuages très nombreux vers le Languedoc-Roussillon avec un peu de pluie et un fort vent de sud-est.
Élodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Brice Teinturier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directeur général de l'entreprise de sondage et d'études de l'opinion Ipsos. Que change la nouvelle donne internationale dans la situation politique française, dans les priorités des Français, dans le choix des personnalités qu'ils apprécient? Voilà ce que nous allons voir ensemble à la lumière d'une enquête que vous avez menée la semaine dernière auprès de 1000 Français. Le baromètre politique Ipsos, saisie école d'ingénieurs, La Tribune, dimanche. 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui veulent nous rejoindre. Vous pouvez passer également, et vous le savez, via l'application France Inter. Brice Teinturier, Trump qui lâche l'Ukraine, qui nous déclare la guerre commerciale. Est-ce qu'on sait à quel point cela préoccupe les Français depuis quelques jours ?
Oui, d'abord, ça les inquiète considérablement. Les niveaux d'inquiétude sont vraiment élevés. On est à plus des deux tiers des Français, voire à 80% suivant les familles politiques. Uh-huh. Il y a simplement les sympathisants du RN qui sont un peu moins inquiets. Donc le contexte international inquiète énormément. La réaction à ce qui s'est passé entre Trump et Zelensky, notamment le 28 février, a fortement indigné et mis en colère les Français, 70% qui nous font part de ce type d'émotion à ce moment-là. Le soutien à l'égard de l'Ukraine, qui s'était un peu tassé il y a un an ou deux, est remonté. Donc les Français sont inquiets, ont parfaitement saisi l'importance du moment. La question des relations internationales a brutalement remonté dans les préoccupations. Elle s'est installée là au troisième rang des préoccupations des Français. Donc le climat est véritablement différent de ce qu'on avait il y a évidemment 6 mois. Et les Français sont tout à fait dans l'idée que la menace russe est réelle, qu'il ne faut pas la relativiser, qu'elle est réelle et qu'on est face à un contexte extrêmement dangereux.
Est-ce qu'on peut comparer ce moment, même si évidemment les choses ne sont pas aussi soudaines et frappantes qu'à l'époque, mais à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, est-ce que ça a été un peu le même choc dans l'opinion publique au fond ?
Dans le choc aujourd'hui, je pense, est plus important parce que les Français...
Ah, c'est plus important aujourd'hui ?
Oui, c'est plus important parce que à la fois les Français voient bien depuis maintenant plusieurs années, depuis presque 3 ans, que Vladimir Poutine continue son offensive et n'a absolument pas renoncé à la conquête de l'Ukraine. Mais ce qui a changé, c'est l'attitude des Américains. Et c'est ça qui constitue la nouvelle donne et une source d'inquiétude supplémentaire, cette espèce de bouleversement absolu qui fait que Donald Trump est plus proche, à certains égards, des positions de Vladimir Poutine que du soutien à l'Ukraine. Là, il y a un changement considérable et qui inquiète fondamentalement les Français qui ont parfaitement compris, encore une fois, que l'Europe se retrouvait beaucoup plus seule qu'avant pour assurer sa propre défense face à une Russie qui est une Russie agressive et qui a envahi un pays.
On savait que la Russie était menaçante, donc le fait de voir Vladimir Poutine de plus en plus menaçant, bon, on pouvait peut-être s'y attendre. En revanche, là, l'attitude de Trump, la surprise accroît encore le choc, si je comprends bien, Brice Teinturier.
Tout à fait. Et vous savez, voir les États-Unis voter avec la Corée du Nord, avec la Russie de Vladimir Poutine, contre les pays européens, à l'ONU, une disposition qui visait à condamner une fois encore l'agression de l'Ukraine par la Russie, c'est quelque chose que personne n'imaginait. Donc tous ces éléments ont été bien compris par les Français, qui ont parfaitement intégré que nous n'avons plus ce parapluie américain et que l'Europe se retrouve en première ligne et doit compter sur elle-même.
François nous appelle de Grenoble. Bonjour François.
Bonjour.
Nous vous écoutons, je crois que votre réflexion évolue, ou en tout cas que vous posez des questions.
Oui, et c'était pour savoir si mon sentiment était partagé, notamment dans le rapport au pacifisme. Puisque j'ai grandi dans les années 90, dans une famille qui voulait pas entendre parler de guerre, puisque ayant vécu la seconde assez durement, et... pour moi, le pacifisme, c'était une valeur importante, mais depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, c'est quelque chose qui est assez flou. Et j'ai même maintenant plutôt tendance à regarder négativement les gens qui demandent la paix, qui demandent la paix à tout prix.
Et quand on vous parle de réarmement, François ?
Oui, c'est ça, et aussi le fait que, même s'il ne s'agit pas de son propre pays, ça peut s'entendre de s'armer, de refaire des campagnes d'inscription de réservistes, par exemple, sans aller jusqu'à la reprise du service militaire. Mmh.
Merci François pour cette question qui est aussi un témoignage. Brice Teinturier, est-ce que ça reflète l'évolution de la réflexion de plusieurs Français ?
Mais tout à fait, je crois monsieur que vous avez tout à fait raison, personne ne veut la guerre, donc la dimension pacifique comme cela, elle est posée, on va dire, dès le départ. Mais la véritable question ensuite, c'est celle que vous avez indiquée, c'est est-ce qu'on peut tout laisser se faire ? Donc les Français, globalement, refusent l'idée qu'un État puisse envahir un autre État, en l'occurrence l'Ukraine, et par la force le dépecer ou bombarder les populations civiles. Et c'est pas la question de vouloir la guerre, c'est la question de se dire qu'on ne peut pas laisser faire cela au nom d'un certain nombre de valeurs. Et puis vous avez un deuxième élément maintenant qui est arrivé, c'est que c'est pas simplement des valeurs qu'on cherche à défendre, c'est aussi l'idée que cette menace ne concerne pas que l'Ukraine, que c'est une menace potentielle pour de nombreux pays européens et donc aussi pour la France.
Est-ce que ça se traduit en termes de propositions, Brice Teinturier ? Par exemple, augmenter le budget de la défense, est-ce qu'il y a un consensus, ou en tout cas de plus en plus de Français qui y sont prêts, rétablir le service militaire ou une réserve avec davantage de Français qui seraient impliqués, est-ce que tout ça progresse dans l'opinion ?
Oui, tout à fait, et les Français sont de ce point de vue très cohérents. Ils sont inquiets, je le disais au début, ils sont même extrêmement inquiets. Du coup, aujourd'hui, ils sont favorables à plus des 2/3, 68%, à ce qu'on augmente le budget de la défense. ils sont favorables dans des proportions moins importantes, mais qui ne sont pas totalement négligeables non plus, à faire un certain nombre d'efforts qui les concernent très directement. On a mesuré ça dimanche dans notre enquête Ipsos saisie École d'ingénieurs pour le Parisien aussi, un certain nombre de mesures très très concrètes. Eh bien, vous avez des proportions de 40%, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, qui sont prêts à envisager une baisse de 5%, par exemple, ce qui n'est pas rien, de remboursement de prestations sociales pour aider au financement du budget de la défense. Donc l'opinion a bougé. Plus les mesures sont évidemment contraignantes, directes, concrètes, personnelles, et moins il est facile de les accepter. À ce moment-là, vous avez plutôt 55 ou 58% de Français qui y sont opposés. Mais il faut comparer ces 55-58% d'opposition à ce qu'on avait auparavant, par exemple, à l'idée de renoncer à un jour férié, où on était encore plus sur « non, non, il n'en est pas question ». Donc l'opinion est assez cohérente et bouge un peu, y compris sur des mesures très concrètes.
Vous avez commencé à avancer, Brice Teinturier, sur le débat de comment est-ce qu'on finance ce réarmement, si on est d'accord pour se réarmer, pour s'armer davantage. C'est un peu le sens de votre question. Brigitte, bonjour Brigitte.
Donc, je vais essayer d'être concise.
Vous nous appelez du département de l'Aveyron.
Oui, de l'Aveyron, tout à fait.
Nous vous écoutons.
Donc, ma question était, pourquoi faut-il, à chaque fois qu'il y a un grand événement, et celui-là n'est pas anodin, on met les gens dans la peur, alors certes la peur de la guerre, mais sans rappeler à Lourdes qu'est-ce que c'est une guerre, hein. Des fois France Inter nous donne aussi beaucoup de bétail et je pense que les gens oublient, alors que on pourrait aussi, certes, en ayant tout ce qu'on nous informe, la possibilité d'une non-guerre avec des moyens mis en œuvre. Parce que là, on peut, au niveau de l'armement, des gens qui sont en mesure, en tant que citoyens, on sait très bien nous consulter pour ouvrir des livrets, pour tout ça, pour l'armement. Mais par contre, pour d'autres sujets, on n'a pas été en mesure de tenir compte de ce qu'on pouvait dire.
Donc consulter les Français, c'est ça le sens de votre message, Brigitte.
Comment ?
Je dis consulter les Français, c'est ce que vous voulez nous dire.
Consulter les Français, pas que, c'est à un moment... La peur fait accepter n'importe quoi et qu'à un moment, la possibilité de nos non-guerres peut aussi ouvrir un peu les esprits.
Merci Brigitte pour cette question. On voit l'évolution aussi du débat ce week-end, Brice Teinturier, autour du départ et de l'âge du départ à la retraite. Est-ce que là aussi, il y a cette réflexion, est-ce que vous l'avez testé dans vos enquêtes, de est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à travailler plus ou à travailler plus longtemps s'il fallait financer ?
Oui, on a testé typiquement ce type de proposition. C'est là où on voit que pour la question d'un recul d'un an de l'âge légal de départ à la retraite, vous n'avez que 39% des Français qui y sont soit favorables, soit sans y être favorable, qui considère qu'il faut l'accepter parce que les circonstances l'exigent. Donc c'est un petit peu moins de 40% pour financer, pour aider au financement du budget de la défense. On peut se dire c'est minoritaire, et c'est minoritaire, mais près de 40%, c'est pas si mal que ça, encore une fois. Ça montre que vous avez une partie de la population qui se dit, eh bien, la situation aujourd'hui fait qu'on va devoir revisiter un certain nombre d'arbitrages. Ça ne fait évidemment plaisir à personne, ce type de mesure, mais vous avez une minorité non négligeable qui commence à la considérer.
Mais on a quand même une majorité qui continue à dire il faut revenir à 62 ans.
Vous
ça
avez
reste
raison.
La majorité des Français.
Sur la retraite et d'une manière plus générale sur le temps de travail, les Français ne sont pas prêts à faire des concessions. Simplement, nous, dans les enquêtes d'opinion, on sait que quand sur ce type de sujet, on est aux alentours de 40% plutôt d'adhésion, c'est plutôt quelque chose d'assez bon par rapport à ce qu'on observe habituellement. Enfin, dans tous les cas, qui nous montre que les choses ont évolué.
Un dernier mot avant de passer aux personnalités politiques. Ça n'est pas la préoccupation numéro un des Français. On est bien d'accord, Brice Teinturier, cette situation
la internationale. La préoccupation numéro un reste le pouvoir d'achat.
Pouvoir d'achat en un.
Absolument. La question de la protection sociale aussi reste un enjeu absolument fondamental. Mais ce qui est remarquable, c'est que la situation internationale a fait irruption et qu'elle est au troisième rang, ce qui est du quasi jamais vu.
Donc, immigration et délinquance,
relégués provisoirement, sans doute, mais en tous les cas, relégués loin aujourd'hui derrière.
Non, mais c'est vrai que souvent, on a le sentiment que ça n'est pas le cas. C'est bien aussi de replacer le trio des préoccupations des Français avec pouvoir d'achat qui reste la préoccupation essentielle. Si on regarde comment les Français jugent leurs représentants à l'aune de cette crise, on constate quoi ? Qu'Emmanuel Macron reste très impopulaire, mais qu'il regagne du crédit ?
Alors, il reste effectivement très, très majoritairement impopulaire, Mais malgré tout, sur justement cette question-là, il reprend de la popularité, il reprend un peu de ressources politiques. Pourquoi ? D'abord parce
27% d'opinion favorable.
Oui, tout à fait. Il était tombé très bas, hein. Il était tombé dans la zone des 21%. Donc progressivement, là, il y a quelque chose qui fait que le chef de l'État retrouve du crédit auprès d'une partie de la population minoritaire, mais malgré tout, un peu de crédit supplémentaire. Pour trois raisons principales. La question de l'international, c'est le domaine du président, ça depuis toujours. Et du coup, quand l'international revient sur le devant de la scène, ça sert plutôt le président de la République. Mais indépendamment de ce qui est un point là, général, la crédibilité d'Emmanuel Macron, sa capacité à faire face à des crises graves, c'était quelque chose qui lui était parfaitement reconnu en 2022. Ça l'a beaucoup aidé par rapport à Marine Le Pen. Et donc, dans des situations aussi tendues que celle-ci, c'est le deuxième élément, le chef de l'État est perçu comme crédible. Et puis le troisième point, c'est qu'il n'y a pas un domaine pour les Français qui serait le strict domaine intérieur et puis le strict domaine international. Les deux, ils l'ont bien compris, s'interpénètrent. Depuis justement l'Ukraine, le prix des céréales qui avait augmenté, l'inflation qui avait augmenté, les Français ont parfaitement intégré que l'international et le national sont poreux, qu'il peut y avoir des effets de l'un sur l'autre.
Vous avez cité Marine Le Pen, Brice Teinturier. On voit que depuis le début de cette séquence, le RN a du mal à se positionner. Jordan Bardella, ce week-end, n'a pas su dire comment il réagirait face à la hausse des droits de douane de Trump. Pour l'instant, ça ne coûte pas au Rassemblement national cette indécision ?
Non, ce qu'il faut d'abord, et vous avez raison, ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que la satisfaction à l'idée que Marine Le Pen ou Jordan Bardella soient en 2027 élus président de la République reste élevée, à plus de 30%, et elle ne faiblit pas. Ça, c'est le premier point. Maintenant, dans notre dernière enquête, on a vu quand même un petit découplage commencer à s'amorcer entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, avec un Jordan Bardella qui passe devant Marine Le Pen, pas au sein des sympathisants du RN, mais chez les LR, dans le bloc central, et probablement parce que Bardella est plus net dans sa condamnation de l'Ukraine,
de la Russie
qui a envahi l'Ukraine, que Marine Le Pen qui tend malgré tout, par moments à le reconnaître, à d'autres moments à minorer l'importance de la menace russe.
Merci Brice Teinturier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également aux auditeurs nombreux qui nous ont appelés. 13h45 sur Inter. Une semaine dans la vie d'une fleur, de la graine au bouquet. Voilà ce que nous propose toute cette semaine notre reporter Claire Chaudière. Alors que la haute saison démarre ces jours-ci, les pivoines notamment, arrivent chez les fleuristes. Je rappelle que 80% des fleurs vendues en France sont importées. Premier épisode aujourd'hui au marché aux fleurs de Hyères, dans le Var, appelé aussi marché aux cadrans. C'est la dernière structure commerciale de ce type en France. De très gros grossistes y achètent les fleurs, produites par les centaines d'horticulteurs de la région. Il est 6h du matin et les ventes vont bientôt démarrer.
Donc là, on est sur le lieu où le matin, il y a toutes les fleurs qui sont présentées. Donc ça, c'est tous les chariots qui vont être passés au cadran. Tout ce qui est fleurettes, renoncules, anémones. Là, on va bientôt arriver dans la saison des pivoines, qui est notre plus grande fleur. Ça peut arriver qu'on vende jusqu'à 1 million de tiges. Ça fait des sacrés volumes.
C'est impressionnant, là. Les fleurs montent au-dessus des têtes des personnes. Et on voit à perte de vue des couleurs, des feuilles et des pétales de fleurs.
Beaucoup d'odeurs, beaucoup de couleurs différentes. Et pas mal de monde qui les regarde, qui les sentent et qui commence à préparer leurs achats. Je suis Aurélie Bonifay, je suis manager commercial et je travaille au marché aux fleurs depuis seulement 6 mois. Et tous les matins, au cadran, c'est une bourse inversée. Les aiguilles commencent au prix le plus haut et puis elles descendent jusqu'à ce qu'un acheteur tape le lot et du coup l'achète.
Ah oui, là, il y a une sorte de petit amphithéâtre
où les clients sont en train donc de s'installer. Donc face à eux se trouvent les fameux 3 cadrans.
Donc tout est électronique, c'est une forme d'enchère.
Il y a une vraie effervescence le matin, tout le monde parle un petit peu de ce qui se passe mondialement puisque c'est une bourse mondiale et que le prix de nos fleurs sont impactés par ce qui se passe dans le monde. Problèmes logistiques au niveau aérien, etc. Donc là on voit par exemple le prix supposé ça serait 1 euro et on voit ça descend jusqu'à ce que quelqu'un appuie sur le pad et achète.
Pour le gros, on en a 2 seaux, le hala blanc 1 seau, orange 3 seaux, il reste 2 seaux. Il reste 1 seau. Allez, 2 bagues de rouge. Non, c'est le prix. Merci pour votre soutien. Allez, dehors.
La majorité des producteurs se trouvent à 25 km du marché au maximum. Placro, le Pradé, donc évidemment hier. C'est surtout le bord de mer.
Oui, il est beau ce mimosa.
Ouais, ça vient de
Tannerons et Italie aussi. L'acheteur, quand il juge que c'est dans ses prix, il appuie. Ou alors, nous, s'ils n'appuient pas, on intervient, on bloque à un certain prix pour pas que ça parte trop bas. C'est le principe de l'enchère remontante. Parce que sinon, le producteur travaille pour rien.
Comment c'est bon vous vous appelez?
Moi, oui. Joël. C'est moi le dernier des Mohicans ici.
Ah bon?
Non, pourquoi? Le plus ancien.
Derrière, ça part au dispatching avec les manutentionnaires. On peut aller voir. Ça va du petit fleuriste qui récupère lui-même tous ses seaux au très gros grossiste qui, lui, a une équipe, sa propre équipe de manutentionnaires qui récolte tous les chariots qu'il a achetés.
Il y en a une vingtaine qui partent d'un seul coup
et on n'est qu'à la moitié de la vente. C'est un très gros acheteur.
Trop cher. 3 sylphides.
Ça peut partir dans la petite boutique qui se trouve à 5 km d'ici, comme ça peut partir évidemment en Hollande, la plateforme mondiale, aux États-Unis, voilà.
Et c'est un paradoxe, mais effectivement, une partie des fleurs qu'on voit circuler ici, qui sont achetées, vont partir à l'étranger. Mais aujourd'hui, en France, on importe quand même 8 fleurs sur 10, en fait.
Très concrètement, si aujourd'hui, la fleur française n'était vendue qu'en France et aucune fleur n'était importée, ça serait, pour ainsi dire, la mort de beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerçants, puisque en France, on n'a pas assez de fleurs produites pour pouvoir fournir la demande. Une fleur, déjà, c'est un produit de luxe, hein, c'est pas un produit de besoin. Forcément, le fait de savoir que ça voyage autant, c'est toujours un peu quelque part choquant, ça, je peux l'entendre. Après, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de sauver tous nos producteurs locaux et de les encourager à planter. Et du coup, on va pas interdire l'export, puisque ça n'aurait aucun sens, sinon nos producteurs eux-mêmes disparaîtraient.
Et demain, nous serons chez un producteur d'anémone. Mais nous resterons dans le département du Var.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50, le lundi. Nous sommes avec notre linguiste, spécialiste du français de nos régions, Mathieu Avanzi. Mathieu, le nouveau Premier ministre canadien Marc Carney est à Paris. Il vient chercher le soutien de la France face aux États-Unis. Il faut dire que nos régions ont des liens forts avec une province canadienne, le Québec.
Exactement, Jérôme. Le français du Québec, c'est du français avec ses accents, ses expressions parfois étonnantes, certes, mais qui puisent en réalité leurs racines dans leur propre histoire linguistique. Quand les premiers colons sont partis s'installer en Nouvelle-France au XVIIe siècle, ils ont emporté dans leur bagage des mots et des tournures venant de leur région d'origine. Normandie, Poitou, Saintonge ou encore Île-de-France. Et là-bas, ces mots ont continué de vivre. Parfois, ils ont un tout petit peu évolué et parfois, ils sont restés tels quels, alors qu'ici, on les a oubliés ou standardisés.
Vous pouvez nous donner quelques exemples, Mathieu ?
Alors, tout à fait. Prenez chicane pour parler d'une dispute. C'est un mot qu'on retrouve déjà chez Balzac et qui a disparu du français standard, mais pas au Québec. Un autre exemple, aster, qui est la contraction de à cette heure, qu'on emploie comme synonyme de l'adverbe maintenant. Une tournure qu'on entendait en France jusqu'au milieu du 20e et qu'on croise encore dans certains terroirs. On en a parlé dans le teasing, le dîner qui désigne outre-Atlantique le repas de midi est encore utilisé dans certaines régions rurales de l'Hexagone malgré la montée du mot déjeuner qui domine dans le Grand Paris. Mmh. Et c'est pas tout. Si je vous dis qu'au Québec, quand on est benaise, on est bien, tranquille, repu, détendu, eh bien sachez que cette expression résulte de la combinaison des termes bien et aise, et que d'ailleurs en France, on est encore benaise aujourd'hui, en Poitou, ou même en Vendée. On pourrait sinon parler du verbe sabrier, pour dire se couvrir ou s'emmitoufler. C'est un mot ancien qui remonte au français médiéval et qui est toujours vivant au Québec. On l'entend parfois en Normandie, et même chose avec l'adjectif malocureux qui s'emploie, comme vous aurez compris, pour parler de quelqu'un qui est facilement écœuré, ou de l'adjectif cani. Alors là, c'est plus difficile. C'est pour parler d'un morceau de pain moisi. Beaucoup de mots normands survivent de l'autre côté de l'océan. Et puis, je pourrais finir avec cette expression délicieuse, ne pas être rendu, qui signifie ne pas être encore arrivé, avoir encore du chemin à faire. On n'est pas rendu, disent les Québécois, une tournure qui...
On l'entend chez nous, ça. Chez nous. Oui, on l'entend aussi chez nous. On n'est pas rendu, Mathieu, mais finalement, c'est comme si ces mots nous revenaient d'outre-Atlantique après un long détour.
Exactement, c'est en fait un peu comme si le Québec nous renvoyait l'écho d'une langue que nous avons, nous, partiellement oubliée. Une belle leçon de linguistique vivante, une leçon de mémoire en mouvement. Nos mots voyagent, se transforment, ils migrent, mais parfois ils reviennent chargés d'un petit accent chantant et d'une belle dose de patrimoine commun. Et entre nous, Jérôme, il y a même une expression typiquement québécoise qui mériterait d'être adoptée ici, parce qu'elle est très parlante. Par exemple, avoir les mains pleines de pouces. Mmh. C'est une manière imagée de dire qu'on est maladroit, qu'on a deux mains gauches, et je trouve que c'est parfait, parce que Dans le contexte actuel mondial, on aurait bien du mal à trouver une meilleure expression pour désigner certains dirigeants qui, de sommet en conférence, semblent accumuler les bourdes diplomatiques. On le dirait qu'ils tiennent le monde entre leurs doigts, mais avec leurs doigts, leurs mains pleines de pouces.
Et cette fois, on est rendu. Merci Mathieu Avanzi pour ce C'est la France spécial lien entre la France et le Canada. De C'est la France ah, c'est une chanson, c'est le chanteur cubain Raoul Paz que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Il sera en concert demain soir au New Morning à Paris où il jouera les titres de Guajiro Chic, son 11e album. Et c'est du groupe Cassave qu'il a souhaité parler. Cassave, groupe antillais que certains considèrent comme l'inventeur du zouk et qui accompagne Raoul Paz depuis maintenant 40 ans.
Je suis cubain, donc les Antilles, ça m'interpelle énormément. Et moi, je suis arrivé à Cassave assez tôt, en étant encore à Cuba. Et j'ai trouvé que pour la première fois, il y avait un groupe qui chantait dans une langue que je connaissais pas, mais qui était caribien et qui était pour moi le symbole de la Caraïbe. Et je considère que c'est un des plus grands groupes français de tous les temps. Et souvent, dans la musique française, on ne les cite pas, ces groupes qui est extraordinaire, qui sont des groupes qui a le plus influencé la musique actuelle, internationale par exemple. Pour moi, Cassave, c'est un symbole, un vrai symbole de modernité, même si ça fait 40 ans que ça existe, mais surtout des mélanges de cultures et des mélanges de musique.
Vous êtes tout jeune quand vous les découvrez ?
Oui, j'ai 17 ans par là, quoi. J'étais adolescent, jeune. J'ai commencé mes études de musique. Bon, à l'époque, j'étudiais musique classique. Et quelqu'un m'a fait écouter justement cette chanson. J'ai trouvé ça différent. Mon intérêt, il était tellement loin. J'ai fini marié avec une Martiniquaise, avoir des enfants en Martinique. Donc voilà, c'est une relation d'amour depuis longtemps avec Cassave.
Vous associez votre histoire d'amour et vos enfants à votre amour pour ce groupe-là aussi ?
Oui, ça fait un tout.
C'est au début des années 80 qu'est sortie cette chanson de Cassave, Frédéric. Son titre, c'est Zoukla Cécel, médicament Nouni.
Un tube planétaire rempli de ruptures rythmiques. Et si Raoul Paz aime autant ce morceau-là, eh bien, c'est à la fois parce qu'il est hyper dansant, Jérôme, et puis c'est aussi pour le message qu'il porte.
Cette chanson, elle dit que voilà, les zouk, c'est le seul médicament important. Et ça, ça traduit cette idée des gens de la Caraïbe. C'est que dès qu'on écoute un peu de musique, on danse et on oublie tous les problèmes. Et c'est vrai. Donc c'est pour ça que je viens d'un pays à problèmes. Je viens de Cuba, un pays qui est très complexe et où le seul médicament, c'est souvent la musique. On est bien, on est mal, on danse. On écoute de la musique et on essaie d'oublier les problèmes. Et je trouve que c'est une façon très intéressante de voir la vie.
C'est une façon d'encaisser les choses aussi ?
Exactement. Surtout les plus durs. En fait, nous, on utilise la musique pour tout. Même on danse dans les enterrements, on utilise la musique quand on est mal. On utilise évidemment la musique comme tout le monde quand on est content. Mais la musique, ça fait partie vraiment de la vie, donc c'est vraiment un médicament. Et je suis bien placé pour le dire, même quand je suis dans un pire moment, quand je me mets à faire de la musique, ça va beaucoup mieux.
Donc ce groupe, c'est un groupe que vous continuez à écouter aujourd'hui en famille ?
Ah mais oui, si c'est pas tous les jours, moi tous les semaines. On écoute qu'à ça, c'est obligatoire. Ils sont imparables.
Vous dansez le zouk ?
Ouais, moi je suis obligé, sinon elle ne se marie pas avec moi. Même si on ne danse pas, on bouge la tête, on bouge un bras, un doigt, c'est impossible de ne pas danser avec ça.
Donc en fait, cette chanson-là, c'est une chanson qui aide à être heureux ?
Oui, je pense. Nous, suivant les musiciens, on a un rôle qui c'est faire oublier. C'est passer un moment, la musique, elle est là pour débrancher un petit câble de la tête et le passer momentanément à un autre endroit Et je crois qu'il est un complice d'une façon extraordinaire. Kassaf, quand elle arrive, tu passes un moment un peu ailleurs. Et c'est un moment incontestablement de bonheur.
Kassav, avec ce titre, Frédéric.
Zoukla, c'est le médicament Nouni.
C'était donc le choix du chanteur cubain Raúl Paz.
Raúl Paz qui vient de sortir Guajiro Chic, son 11e album qu'il jouera demain soir au New Morning à Paris.
C'est un sans faute, merci Frédéric Pommier. On vous retrouve demain. C'est bien de commencer la journée ainsi, Mathieu Vidard.
J'adore.
Le programme de la Terre au carré.
Jérôme Cadet, on va poursuivre notre série sur le capitalisme avec Karl Marx et l'écologie aujourd'hui.
Eh bien, à tout de suite.